soir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Clôture mardi dernier à Kinshasa, des travaux du conclave du Rassemblement des forces politiques et sociales de l'opposition. Parmi les résolutions, vous le savez, le Rassemblement estime qu'après le 20 décembre 2016, date de l'expiration du mandat de l'actuel chef de l'État, celui-ci ne pourra plus engager la RDC à l'intérieur comme à l'extérieur. Par conséquent, le Rassemblement propose la mise en place d'un régime spécial devant assurer la gestion du pays et organiser les élections dans le respect de la Constitution. Comme deuxième thème, nous parlerons du président de la CENI qui prévoit la tenue de l'élection présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales pour décembre 2018. Corneille Nangaa justifie cela par le fait qu'à la fin de la révision du fichier électoral qui interviendra en juillet 2017, la série d'opérations électorales qui s'en suivra nécessitera plus de 500 jours. Et pour en parler, je reçois Jean-Claude Bimoala. Bonsoir confrère.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur du Climat Tempéré, par essence à Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir cher ami.
Vous êtes directeur des informations numériques au groupe L'Avenir. Romain Kambala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Kasaï Horizon Radio TV, émettant de Tshikapa. Bienvenue à tous dans votre émission. Ouvrons le bal par la revue de presse pour voir comment la presse quinoise a traité ces sujets que nous abordons ce soir avec vous, Guy Maté. Bonsoir.
Bonsoir. Les résolutions du conclave du Rassemblement, le silence autour du dialogue national ainsi que les dézains des massacres de Beni sont parmi les faits qui ont défrayé la chronique cette semaine. Le décès de l'ancien vice-président de la République, Arthur Zaïdi Ngoma, a aussi occupé les unes des journaux quinois. Ainsi, le potentiel titre retombé du conclave du Rassemblement, régime spécial, transition, gestion consensuelle, des convergences parallèles, et au quotidien d'affirmer que le conclave du Rassemblement a été un véritable réquisitoire pour la majorité au pouvoir. Les conclavistes délimités ont fait le constat que dans quelques mois, la RDC, par la seule volonté du régime en place, se trouvera dans la situation atypique d'un État dont les institutions nationales et provinciales à mandat électif auront toutes perdu leur légitimité. La conséquence est donc le vide des régimes démocratiques. Raison pour laquelle l'une des résolutions phares du conclave du Rassemblement est la mise en place d'un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder les élections dans le respect de la Constitution et suivant des normes démocratiques. Au sujet du dialogue, la prospérité titre, division au sein des composantes RDC, les dialogues bloqués. En plus du problème d'inclusivité, les pourparlers de la cité de l'Union africaine souffrent désormais des divisions, indique ce quotidien. Cette donne était déjà perceptible côté opposition, où Mbikaï mène une fronde contre Vital Kamerhe. Mais aux indiscrétions, les délégués de la majorité présidentielle ont et aussi malheureusement des divergences de vues. Les consensus au dialogue présidé par Edem Kodjo semble de plus en plus difficile à obtenir. De ce fait, la signature de l'accord final et la clôture de ces forums s'éloignent de plus en plus, estime ce journal. Dialogue, un silence inquiétant, s'exclame un forum des As qui pose une série de questions. Où en est-on exactement avec le dialogue politique national inclusif en RDC? À quelle étape se trouvent les travaux de la cité de l'Union africaine à Kinshasa? En tout cas, jusqu'à ce jeudi, les communs des mortels quinois n'avaient pas la moindre information quant au jour de la plénière tant entendue. Le moins que l'on puisse savoir, rappelle ce quotidien, est que les travaux du dialogue politique national inclusif en RDC n'ont pas encore été conclus. Bien au contraire, ils sont plutôt entrés en hibernation. Élection incertaine à l'RDC, les 16 mois et 504 jours des Nangaa indéfendables selon le Phare. Face à une impasse électorale que certaines officines politiques de la majorité au pouvoir considèrent comme incontournable, de nombreux cerveaux ont commencé à tourner à plein régime, annonce ce journal qui précise que récemment, l'AETA et la LUCA ont rappelé aux Congolais une règle du jeu déjà expérimentée avec succès en Afrique du Sud et en Sierra Leone, à savoir les couplages de l'enrôlement avec les votes pour l'élection du président de la République. L'avantage d'une telle recette est de battre en brèche l'hypothèse de tout dépassement des délais constitutionnels pour l'élection présidentielle. Radio Kapi rapporte que cela fait 2 ans depuis le début des massacres des civils à Beniville et territoire. Et c'est cite de rappeler que c'était le 2 octobre 2014. La société civile locale parle d'un triste anniversaire et donne les statistiques des 1200 personnes massacrées, plusieurs autres portées disparues, ainsi que des maisons et centres de santé incendiés par les assaillants pendant cette période. Décès de l'ancien vice-président Arthur Zaïdi Ngoma, la nouvelle a été relayée par tous les médias qui précisent qu'il est décédé mercredi dernier dans un hôpital parisien en France où il avait été évacué au début de cette semaine par avion médicalisé. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guimaté. Jean-Claude Bimola, éditeur du climat tempéré paraissant à Kinshasa. L'ancien vice-président congolais Arthur Zaïdi Ngoma est décédé mercredi dernier dans un hôpital parisien en France où il avait été évacué au début de cette semaine par avion médicalisé. Un mot sur cette personnalité qui disparaît.
Regrettable, à 69 ans, il avait encore une carte à jouer pour son pays. Pour moi, c'est un exemple de renoncement de plusieurs avantages sociaux, économiques et professionnels que lui offrait son poste à l'UNESCO. Ce monsieur avait tout abandonné en 1999 ou 98 pour revenir et se mettre au service de son pays. Et sa liberté d'esprit lui avait valu à l'époque l'emprisonnement, l'embastillement par le régime de Kabila qui était entré dans un cycle de dérives dictatoriales. Arthur Zaïdi Ngoma a été embastillé, libéré simplement sous des pressions diplomatiques parce qu'il était très souffrant. Parti en Europe, il va intégrer les RCD, rassemblement, un mouvement rebelle parce qu'il pensait que c'était la seule voie, c'était la voie des armes, la seule voie que le pouvoir était en mesure d'écouter. Et même là, son intelligence et sa liberté d'esprit, il va se rendre bien compte qu'il était dans un autre piège. Il entrera dans un processus de dialogue congolais.
Bref, c'est une grande perte
pour
la nation.
C'est une grande perte pour la nation. Malheureusement, il part au moment où ce qu'il considérait comme acquis de sa lutte semble être remis en cause par plusieurs faits négatifs que présente l'actualité en termes d'avancées démocratiques.
C'est
là ma peine.
Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques au groupe L'Avenir, également un mot sur la disparition d'Arthur Zaïdi Ngoma.
Oui, c'est une nouvelle qui a glacé tous les enthousiasmes. Le professeur Zaïdi qui nous quitte au moment où le pays traverse une période très importante. Je crois que son expérience, son passé varié et enrichissant pouvait également être très profitable pour ceux qui étaient au dialogue. On l'a aperçu tout récemment au Mont Galiéma. Je l'ai vu un peu fatigué, il présentait des signes de fatigue et de faiblesse. Il a décidé de nous précéder dans l'au-delà. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une bibliothèque vivante que le pays perd. Quelqu'un de courage, toujours aussi positif. Il a fait ce qu'il a pu, quitte à nous de continuer la lutte.
Alors, avant de donner la parole à Romain Kambala, très rapidement, Jean-Pierre Kayembe, un mot sur les 2 ans depuis le début des massacres de Beni.
Triste anniversaire, ça fait 2 ans que ça dure. Dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Je suis parfois écœuré quand j'apprends que ces rebelles qui tuent sans remords font des incursions dans des villages hyper sécurisés par des troupes des Nations Unies.
Et des
FARDC, il faut le reconnaître. Il faut dire que en dépit de tout ce que la MONUSCO dispose comme matériel, et des efforts conjugués, on n'arrive pas toujours à juguler ce qui a tout l'air d'un terrorisme négligé. Mais je crois que les sangs des innocents qui baignent depuis 2 ans les sols béniciens criera vengeance.
Jean-Claude Bimola.
Triste encore. Triste anniversaire. Plus de 2500 Congolais morts ou égorgés, tués avec une rare atrocité. Les réponses du gouvernement n'ont jamais été coordonnées, efficaces, et finalement elles ont été décevantes parce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réussi à identifier exactement et clairement les vrais auteurs de cette situation. Qui sont-ils? Pourquoi nous égorgent-ils? Deuxièmement, il a été incapable de mobiliser suffisamment l'opinion nationale et internationale autour de cette question. Regardez par exemple la télévision nationale ou les médias publics. Combien de temps consacre-t-on à la situation de Beni? Pas grand-chose. Et je pense vraiment que c'est assez grave et incompréhensible. Moi, je suis pas un politicien, mais je pense que le nord et le sud Kivu, ou l'est du pays, c'est les viviers électoraux du pouvoir actuel. C'est là qu'ils ont engrangé de plus de voix possibles. Et tourner le dos à cette population, c'est vraiment cracher sur l'assiette qui vous a servi la soupe.
Romain Kambala, journaliste à Kasaï Horizon Radio TV, émettant de Tshikapa, qu'est-ce qui fait l'actualité là où vous vous trouvez?
L'actualité à Tshikapa, c'est la poursuite de la réhabilitation de la voirie urbaine, les travaux qui ont été entamés depuis un certain temps par la société Sino-Hydro, qui à un certain moment s'était stoppé. Ces travaux sont relancés pour le moment et on cherche à relier bien entendu le tronçon. Autre actualité, c'est toujours dans la réhabilitation du réseau national numéro 1 vers Kananga. La ville a accueilli au courant de cette semaine plusieurs opérateurs qui sont venus d'abord faire état du lieu et visiter la route en question afin de pouvoir souscrire pour le bitumage de ce tronçon de la route. Voilà au moins, tu gras pas l'actualité pour le moment.
Alors je voudrais avoir également votre commentaire sur les deux sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, la disparition du professeur Arthur Zaïdi Ngoma, ainsi que les deux ans du début des massacres de Beni.
Concernant le décès de Arthur Zaïdi Ngoma, c'est un peu malheureux vraiment. C'est vrai que sur notre voie, à nous tous, on passera, mais partir avant l'heure, on l'a dit à 69 ans, quand on est professeur, c'est-à-dire ce sont nos universités qui en souffrent parce qu'ils ont perdu un de leurs responsables, ça c'est un. De deux, vu sa grande expérience au niveau des instances des Nations Unies, notamment à l'UNESCO, et aussi son expérience très riche pour avoir pris part à la Formule 1 plus 4 dans le temps, gouvernement congolais. Je pense que aujourd'hui, le Congo qui est en train de rechercher à lier bien entendu ceux du nord et du sud, ceux de gauche et de droite, lui qui avait déjà l'expérience pour 4, je pense que c'est une perte énorme pour la République, mais qu'est-ce qu'on en est représenté?
Et sur la situation de Beni?
Ah, la situation de Beni, vraiment, deux ans, jour pour jour, aujourd'hui, je pense que nous avons tous failli. Ceux qui nous dirigent n'ont pas eu de l'intérêt pour Beni. Il ne faut pas nous voiler la face pour leur dire de réalité. Parce que si réellement, aujourd'hui, on peut venir attaquer au Kasaï et les communes à Sapou, et à plus forte raison, là où on a égorgé 1200 et autant de disparus, autant qui sont partis se réfugier ailleurs, pourquoi la politique du gouvernement ne se dessine pas pour combattre réellement ceux qui attaquent la partie est de la République, notamment à Beni? C'est devenu une habitude, c'est devenu une répétition. Ici, nous en faisons appel au gouvernement de la République. Je crois que sa volonté se montre très minimaliste.
Merci.
Mais ils ont tout intérêt à protéger l'étendue de la République.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Clôture mardi dernier à Kinshasa des travaux du conclave du rassemblement des forces politiques et sociales. Pendant près de deux semaines, les membres de cette plateforme de l'opposition ont examiné les questions relatives à l'organisation d'un véritable dialogue inclusif selon eux. Le processus électoral crédible et transparent et l'exercice du pouvoir après la fin du mandat du président Joseph Kabila étaient aussi au menu des discussions. L'essentiel de ces résolutions avec vous, Nadine Foulon.
Dans ces documents de 11 pages, les rassemblements précisent que, s'agissant du président de la République, déjà en préavis, il intensifiera les actions pacifiques amorcées les 19 et 20 septembre jusqu'à son départ du pouvoir les 19 décembre 2016. Pour les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement, à partir du 20 décembre 2016, le président Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cette plateforme de l'opposition souligne que toutes les institutions dont les mandats des membres sont à terme doivent cesser de fonctionner. C'est pourquoi les rassemblements soulignent la nécessité de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder les élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. En ce qui concerne la séquence des scrutins, les rassemblements affirment entre autres que la priorité doit être donnée à l'élection présidentielle couplée, comme par le passé avec les législatives nationales. En en rapport avec les dialogues inclusifs. Les rassemblements notent que ces dialogues devraient mettre autour de la table deux parties, les participants aux discussions de la Cité de l'Union africaine d'un côté et les rassemblements et ceux avec lesquels ils partagent les positions de l'autre. Cela sous la facilitation d'une personnalité dont la stature internationale inspire confiance aux parties prenantes et garantir à tous la neutralité et l'impartialité.
Merci Nadine Foulan-Simba. Jean-Claude Bimoala, éditeur du Climat tempéré par essence à Kinshasa. Comment vous avez analysé ces résolutions du rassemblement?
Les résolutions du rassemblement, il faut dédramatiser les choses. Elles ne sont pas opposables à tous. Ce sont des résolutions ne sont pas des résolutions applicables aux institutions. Il me paraît simplement être un document de travail, car pour eux, les négociations ou les dialogues n'ont pas encore commencé. Aura-t-il lieu un jour? Pour eux, je pense oui, au regard de plusieurs évolutions observées ça et là. Vous avez appris tout dernièrement, les Nations Unies, l'Union africaine, plusieurs diplomaties et chancelleries internationales se sont impliquées pour que, finalement, Luanda, à côté, convoque un sommet sur la crise du Congo. Et là, c'est une avancée. On ne peut pas parler du consensus, il faut être honnête, on ne peut pas parler du large consensus en excluant Tshisekedi et toute sa bande. C'est impossible. C'est une donne qui s'impose. Il faut l'accepter. Mais on va parler du consensus en excluant l'Église catholique. C'est impossible.
Mais Jean-Claude Bimoala, vous dites que c'est un document de travail. Mais ce document de travail qui dit par exemple qu'après le 20 décembre, le président Joseph Kabila ne pourra plus engager la République ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Toutes les institutions fin mandat doivent cesser de fonctionner. Mettre en place un régime spécial. Comment vous expliquez ça alors que plusieurs analystes pensent que tous ces éléments ne respectent pas non plus la Constitution?
C'est un document de travail qui montre qu'ils sont prêts à discuter avec l'autre partie. Ils ont un document sur lequel ils peuvent commencer à discuter. Et je pense que le dialogue qui se tient au Mont-Galima aura permis une seule avancée, c'est réunir une partie importante du cahier de charge des acteurs congolais. Il est temps que les négociations abordent les cahiers de charge d'une autre partie prenante dans la crise congolaise, c'est tout à fait normal.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui reprochent au rassemblement, qui à son tour reprochent à la majorité et à ses alliés de ne pas respecter la Constitution? Le rassemblement lui-même semble leur emboîter le pas.
Non, le rassemblement n'est pas au pouvoir. Ceux qui sont,
mais en faisant des propositions qui ne respectent pas la Constitution.
Ceux qui posent des actions qui engagent l'État. Ce sont les gens qui sont au pouvoir. C'est à eux qu'on demande de respecter les prescrits de la Constitution. On ne peut pas interdire à une personne de réfléchir. Un rassemblement, c'est un fait privé. Il n'engage pas l'État congolais. Ceux qui engagent l'État par leurs actes, par leurs discours, c'est ceux qui sont eux qui sont au pouvoir et c'est eux qu'on juge qui sont en train, visiblement, de conduire le pays sur une voie différente de celle que la Constitution a tracée.
Alors, en parlant de ce régime spécial, certains analystes pensent que le rassemblement serait d'accord pour une transition également.
Ce n'est qu'une réflexion. Pour interdire aux gens de réfléchir. Le rassemblement, c'est un fait privé. Ils ont réfléchi sur les possibilités de sortie des crises. Et qu'ils proposent sur la table des négociations. Et le dialogue, le sommet appelé par Luanda grâce à la CIRGEL, je pense que c'est une occasion de confronter les différents points de vue sur table pour voir trouver finalement les consensus difficiles qui fera traverser le pays de cette tumultueuse période de sa vie. Voilà.
Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques au groupe L'Avenir. Le rassemblement précise que le président Joseph Kabila est en préavis selon lui et qu'il intensifiera les actions pacifiques amorcées les 19 et 20 septembre jusqu'à son départ du pouvoir le 19 décembre 2016. Il y a plusieurs analystes qui craignent que l'on tombe dans une escalade de violence et de répression en même temps.
Et je crois que le rassemblement se raconte des appels à la violence, des appels à la destruction massive que ses leaders lancent. Et ils seront comptables.
Ils parlent de manifestations pacifiques.
Manifestations pacifiques avec des manifestants dont on a du mal à contrôler. Des manifestations qui dégénèrent. Et je crois que chacun devra porter sa responsabilité. Et les leaders du rassemblement sont aujourd'hui comptables de tout dérapage. Parce que Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale, déclarait il y a une semaine qu'elle a un regard particulier sur la situation en République démocratique du Congo et sait voir qui fait quoi.
Avec alors, une police portée à la répression aussi.
Une police parfois qui joue à la défensive. Joue à la défensive dans la mesure où vous avez des militants qui jouent à la provocation, qui les provoquent. Ces policiers, c'est des Congolais comme nous. Ils sont payés par nous.
Et entraînés pour ça.
Entraînés pour assurer l'ordre public. Quand vous avez une manifestation censée commencer à 9h et à 7h, des militants font des barricades. Ils empêchent les autres Congolais à vaquer librement leurs occupations. Quel est dans ces cas le rôle de la police? C'est de rétablir l'ordre public et c'est ce qui est fait jusque-là. Alors quand vous avez des militants ou des sympathisants qui s'en prennent aux policiers, qui les tuent, ça ce n'est pas tolérable.
Alors en parlant des autres aspects tels que toutes les institutions doivent cesser de fonctionner, celles du moins dont les mandats des membres sont à terme, la mise en place d'un régime spécial, Jean-Claude Bimoala lui pense qu'on ne peut pas empêcher des citoyens congolais de réfléchir à haute voix et que cela n'est pas imposable à tous.
Oui, je considère le rassemblement comme un fait privé, mais je crois que là, il pousse le bouchon un peu plus loin, dans la mesure où ils annoncent une violation intentionnelle de la Constitution. Vous avez vu la colère d'autres opposants ou de membres de la majorité présidentielle par rapport à ce qui apparaît aujourd'hui comme une véritable violation de la Constitution. Le régime spécial n'existe nulle part. Et je suis parfois écœuré quand je constate que le rassemblement prétend défendre une Constitution que ses militants violent aujourd'hui, interprétés de manière sélective et intentionnelle certains articles de la Constitution, c'est la violer. Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement vous dit que le 20 décembre, tout s'arrête. La Constitution ne l'a pas dit. Pourquoi ignorer superbement cet alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution? Pourquoi l'ignorer? Parce que c'est en défaveur des appétits de membres du rassemblement, la plupart qui étaient encore turiféraires il y a peu du régime au pouvoir. Donc vous comprenez que c'est parfois contradictoire. On veut d'une chose son contraire, on prétend défendre une constitution dont on a envie de violer. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'idée d'une transition, l'idée d'un régime spécial soit la bonne, qui convienne pour notre pays. Le rassemblement parle du consensus, mais que je sache, le dialogue qui se tient au Mont Galiema est consensuel et inclusif. Il est inclusif dans la mesure où il n'y a aucun article. Il n'y a aucun règlement qui exclut une catégorie de Congolais. C'est des Congolais qui se sont exclus d'eux-mêmes. Et là, je ne pense pas qu'il faille porter le chapeau aux facilitateurs ou encore au régime parce que personne n'a été exclu.
Alors, nous allons revenir à cet aspect à tout à l'heure. Romain Kambala, vous êtes journaliste à Kasaï Horizon Radio TV, mettant de Tshikapa. Comment vous analysez les résolutions du conclave du rassemblement?
C'est comme l'ont dit les confrères, le rassemblement, c'est vrai, c'est en fait privé, mais l'intervention de l'enfant passé, nous avons dit, il y avait tout intérêt à ce que toutes les parties se retrouvent autour d'une même table pour sortir avec une décision qui soit la plus bonne et favorable pour la vie de la nation. C'est vrai que le rassemblement s'est réuni et a pris ce qu'il a pris comme disposition dans son cahier des charges. C'est une manière de contraindre le gouvernant à revenir sur les droits chemins, le bon chemin, et à respecter la Constitution que nous réclamons tous. C'est vrai que les décisions prises au conclave du rassemblement ne sont pas opposables à tous. C'est vrai, mais ça donne déjà l'idée de ce qu'on pense que si c'est fait et qu'on revient sur une même table et qu'on discute, automatiquement, on arrivera à des solutions qui soient les plus bonnes. C'est trop dur, c'est vrai, comme vous le dites, ils aient déclaré un régime spécial. Ça, c'est déclarer le régime, ce serait juste piétiner la Constitution parce que nous partons tous pour le respect de la Constitution. Si aujourd'hui on commence à réclamer le régime spécial, ça signifie qu'on met la Constitution à côté et on sort d'autres documents qui puissent prendre la place de la Constitution. Mais aussi, il faut comprendre pourquoi on en arrive à réclamer un régime spécial. si jamais la constitution avait été respectée, si le délai constitutionnel avait été respecté, on ne sortirait pas de brèche du genre régime spécial, du genre au 20, le tout s'arrête, ensuite de suite. Donc ce qu'il faut dire ici est que il y a encore du temps. Si nous voulons que les choses aillent dans la bonne direction, que les différentes parties se retrouvent autour d'une table, et ça pourra donner des bonnes solutions.
Alors en parlant du dialogue, vous avez suivi tout à l'heure Jean-Pierre Kayembe qui pensait que le dialogue qui se tient à la Cité de l'Union africaine est inclusif puisqu'en ayant exclu personne, mais le rassemblement lui pense qu'il faudrait plutôt organiser un nouveau dialogue entre ceux qui sont à la Cité de l'Union africaine et le rassemblement. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure?
Oui, moi je pense qu'il faut encore un autre dialogue, parce que je l'avais dit dans ma conclusion de la fois passée, fin du dialogue formule Eden Kodjo, début d'un autre dialogue pour qu'on arrive à de meilleures solutions. C'est ma conviction personnelle. Je pense personnellement que, d'abord, rentrons au dialogue qui se tient à la Cité de l'OIA. Vous avez compris que l'avidité politique commence à opposer quelque part Vital Kamerhe et Ndikaye, ceux qui étaient censés représenter l'opposition. On reproche à celui-ci de prendre des positions sans concertation, de pouvoir s'étayer. C'est comme qui dirait, ceux qui sont allés représenter la soi-disant opposition au dialogue avaient déjà un agenda caché et aujourd'hui les choses sont en train de se révéler à la place publique. Donc, je pense qu'il est grandement temps qu'on initie un dialogue inclusif. Celui-ci ne l'était pas, parce que ceux qui étaient allés représenter l'opposition au juste avaient un agenda que nous ne connaissions pas, mais cet agenda qui est en train de se révéler pour le moment.
Jean-Claude, dis-moi là, il y a plusieurs observateurs qui estiment que le dialogue qui se tient à la Cité de l'Union africaine est constipé.
Oui, sinon il serait déjà fini depuis bien longtemps. C'était pour 15 jours qu'on l'avait convoqué. Là, nous sommes à plus de 36 ou 37 jours. Ça signifie qu'il y a réellement de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre.
Alors
et il est temps de les clôturer.
En ce moment, est-ce qu'il faut le clôturer?
Il faut le clôturer. La roue de l'histoire continue à tourner. Il n'y a personne, il n'y a aucun groupe qui a le monopole des solutions de ces pays. Il n'y en a pas. Vous êtes arrivé au bout de vos efforts. Il faut clôturer, donner les relais à d'autres personnes, d'autres créativités, d'autres imaginations. Parce que le mal du Congolais, je pense vraiment, c'est de croire que quand vous êtes nommé quelque part, vous devez épuiser tout l'agenda. Le job description n'est qu'une indication qu'on vous donne pour aller dans le sens du bien. Mais les limites personnelles, les limites intellectuelles, les limites géographiques, les limites de toutes sortes peuvent vous contraindre à vous arrêter quelque part. Même la mort peut vous contraindre d'arrêter votre mission. Et le dialogue est arrivé à son terme. Qu'on ne se voile pas la face. Il faut le clôturer et ouvrir d'autres perspectives. Il aura permis certains acquis. Il faut pas les nier. C'est de constituer finalement une première base d'un cahier des charges qui mérite d'être mis sur la table de discussion. Il faut l'opposer à ceux qui pensent autrement. Il faut le poser à ceux qui pensent autrement. Je voulais répondre à mon frère qui disait que...
Jean-Pierre Kayembe.
Mon estimé frère Jean-Pierre Kayembe, pour lui dire que le document de rassemblement me paraît être un simple appel à dialogue. Pourquoi dialogue? Parce que dans l'architecture de ce dialogue, je pense que la majorité a 90% du levier qui fera des leviers qui feront de ces dialogues un dialogue réellement inclusif. Revenons sur la table. Mais, mon frère, qui doit libérer les politiciens? C'est l'opposition? Je ne pense pas. C'est la majorité. Mon frère, revenons encore. Qui doit libérer l'espace public de médias? C'est encore l'opposition? Non. Je pense vraiment, réellement, si on veut aller de l'avant, la majorité doit faire preuve de bonne foi. Et parce que nous en sommes là, parce qu'ils sont responsables de cette crise. Peut-être pas auteurs, mais responsables, parce que c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez les pays pour le moment. Vous êtes responsables de tout ce qui arrive au pays en ce net moment. Et donc, vous devez prendre les initiatives d'un responsable qui ne veut pas faire chavirer les bateaux, qui a l'intention d'amener les bateaux vers les rivages, les meilleurs, pour les biens du peuple congolais, pas pour ses ambitions personnelles. C'est là que les bas blessent, parce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre des avantages acquis par l'exercice du pouvoir. Non, le pouvoir, c'est un apostolat.
Jean-Pierre, Jean-Claude dit tout à l'heure que les travaux de la Cité de l'Union africaine doivent être considérés comme la première base pour d'autres discussions. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, je ne suis pas totalement d'accord avec lui.
Quand on sait que les opposants qui sont à la Cité de l'Union africaine ne sont pas moins opposants que ceux qui sont au Rassemblement.
Et le Rassemblement les considère comme des alliés de la majorité.
Et aujourd'hui, je ne voudrais pas parler du Rassemblement. Le Rassemblement, aujourd'hui, c'est comme un panier à crabes. Un panier à crabes où vous avez ceux qui chantaient pour Kabila il y a encore moins d'une année, aujourd'hui, qui se réclament plus opposants que Kader, qui est dans l'opposition depuis plus de 5 ans. Donc, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, personne ne peut dénier la qualité d'opposant à l'autre. Le Rassemblement a créer cette situation. Le Rassemblement n'est pas pour le dialogue. Ils sont pour cette vieille politique de la terre brûlée. Le Rassemblement est là, il cherche à tout prix à prendre le pouvoir par la force.
Mais il en appelle à un vrai dialogue inclusif.
Ils n'iront jamais à ce dialogue, je le sais.
Pourquoi selon
vous? Parce que je parle de faits. Le Rassemblement, à l'époque, l'UDPS, il y a eu des pré-dialogues à Ibiza, il y a eu pré-dialogues ailleurs, il y a eu même des contrats, des conventions qui ont été signés et jamais été respectés. Le Rassemblement a appelé à la libération de certains prisonniers. Ceux qui étaient libérables l'ont été. Et les autres les seront dans les jours qui viennent. Le Rassemblement a appelé à la libération des médias, à la réouverture des médias. Deux d'entre ceux qui étaient fermés sont désormais opérationnels, mais donc Canal Futur a des problèmes techniques et je ne pense pas que lui ne sait me contredire.
Et donc vous pensez que le Rassemblement va aller de préalable en préalable?
Oui. Donc c'est des stratagèmes qu'ils développent, ils n'ont pas la réelle intention de dialoguer avec le pouvoir. Quand on sait comment les choses, c'est pas ce qui s'est passé à Gorée, je ne veux pas dire ici ce qu'un journaliste ne devrait pas dire. Donc si vous lisez entre les lignes, la majorité a posé bien d'actes de crispation. La majorité, les lignes ont suffisamment bougé côté majorité, côté rassemblement, rien n'a bougé. Par contre, les autres opposants nationalistes, les autres Vital Kamerhe et les autres ont compris qu'il y avait la bonne foi dans le chef de la majorité présidentielle, et on sait qu'en théorie des négociations, à un moment donné, il faut faire des concessions. Mais depuis, le Rassemblement n'a fait aucune concession. Alors, j'ai mis quiconque au défi.
Alors, en ce moment où le dialogue de la Cité de l'Union africaine semble crispé et qu'il paraît de plus en plus, selon certains analystes, qu'il y a urgence d'un dialogue entre le Rassemblement et le pouvoir, donc pour vous, vous pensez que c'est inopportun?
Non, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est élargir ce qui se passe à la Cité de l'Union africaine. Dans tous les cas, Edem Kodjo l'a toujours clamé que les portes sont ouvertes à quiconque. Je rappelle encore.
Il a été récusé, le Rassemblement propose qu'il y ait une autre personnalité de carrure, d'une carrure internationale.
Mais c'est cette même opposition, cette frange radicalisée, permettez-moi les termes, qui a exigé que ce dialogue soit dirigé par un expatrié. Kodjo, aujourd'hui, il a la confiance de la communauté internationale. Il a la confiance de la France, la confiance de l'OIF, la confiance des Nations Unies. Et d'ailleurs, la MONUSCO est présente à la Cité de l'Union africaine, donc elle ne le savent même pas. La MONUSCO est là. Donc ce dialogue se tient sous le regard de la communauté internationale et il faut éviter des suspicions sur M. Kodjo qui a fait ses preuves.
Romain Kambala, il faut éviter des suspicions sur M. Kodjo qui a fait ses preuves, mais le Rassemblement souhaite la facilitation d'une autre personnalité dont la stature internationale inspire confiance aux parties prenantes et peut garantir à tous la neutralité et l'impartialité.
Bon, moi je pense personnellement que M. Kodjo doit arrêter ce dialogue parce que c'est un dialogue qui a trop traîné et pour lequel on se rend compte qu'il n'y a pas toujours de solution. Aujourd'hui on est à plus de 30 jours. Quelque chose qui a été prévu pour 2 semaines, aujourd'hui on en est à plus de 30 jours. Et entre-temps, il n'y a pas toujours de solution. Ce qui prouve qu'il y a un blocage et un vrai problème à l'intérieur. Il ne faut pas dire que M. Kodjo a prouvé de quoi il est capable. Si réellement Kodjo était capable, on en serait aujourd'hui à la phase de solution. On discuterait déjà des propositions, des solutions déjà établies et les dialogues seraient clôturés. Ce qui prouve que ça n'avance pas et qu'il est, permettez-moi le terme, incapable pour le moment de sortir les vraies solutions, les solutions qui peuvent mettre, parce que le problème c'est pas même les solutions, mais des solutions qui mettent tout le monde d'accord. Là où chacun se retrouve, et chacun comprend que ce qu'on a tiré sont des conclusions vraies, et nous pouvons dans les jours à venir atterrir en douceur avec tous les problèmes qui minent la vie politique du pays, sans qu'il y ait écoulement de sang, sans qu'il y ait de soulèvement, sans qu'il y ait ceci. Je sais personnellement que c'est assez compliqué. Assez compliqué parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser plus pour dire les résolutions du dialogue comme pour donner la nouvelle vie à la République. Mais nous ne condamnons pas la mauvaise foi des gouvernants que nous avons qui nous amène aujourd'hui à des problèmes. Commençons d'abord là. C'est comme qui dirait, nous voulons nettoyer la plaie, mais nous ne voulons pas demander cette plaie est issue de quoi. Il y aura maintenant de quoi la provenance de la plaie. Nous risquons de mettre des produits qui vont plus créer encore de faire revivre la plaie. Donc, il ne faut pas commencer d'abord à faire l'anamnèse. Le problème qui nous amène aujourd'hui à dialogue X, dialogue Y, exclusif, inclusif, ensuite de fait. Le problème, c'est lequel? C'est le manque de volonté des gouvernants que nous avons. Ils avaient tout le temps. Il ne faut pas se voiler la face. Ils avaient tout le temps depuis 2011. Je pense que dans les nations qui se respectent, ils ont donné le mandat, on commence à préparer le prochain mandat. Chez nous, il a fallu y attendre. Quand on arrive en 2016, on commence à parler fichier électoral. Quand le fichier électoral avance, on commence à parler à juillet 2017. Quand on parle de juillet 2017, on parle de fin 2018 pour des élections. Mais au juste, vous voulez satisfaire qui?
Merci. Nous allons passer à notre deuxième thème. Il nous reste vraiment moins de 10 minutes pour ce deuxième thème et je demanderai que nous puissions être assez brefs. La CENI projette les élections en décembre 2018. Annonce du président de cette institution le week-end dernier à la plénière du dialogue national à Kinshasa. Corneille Nanga a donné des indications techniques sur le calendrier électoral en prenant en compte les recommandations de parties prenantes au dialogue. Devin Mwinga nous résume ces indications sur le fichier et le calendrier électoral.
Il faudra attendre jusqu'au 31 juillet 2017 pour avoir un fichier électoral, a dit le président de la CENI. Environ 45 millions d'électeurs devront être enrôlés à la fin de cette opération en cours. Débutera ensuite un marathon électoral, répartition des sièges par circonscription électorale, inscription de candidatures, commande de matériel électoraux, jugés sensibles, leur déploiement, formation des agents électoraux pendant 7 jours avant le jour de vote. L'ensemble de ces opérations devra durer 504 jours à dater du 31 juillet 2017. Le calcul de la CENI s'est basé sur une opération électorale couplant les élections présidentielles et législatives combinées aux provinciales le même jour comme l'ont opté les parties prenantes au dialogue. Mais dans les débats, l'opposition a démontré à la CENI qu'il est techniquement possible dans le contexte politique actuel de comprimer ces dates en convoquant le corps électoral le 30 septembre 2017 et tenir les élections 6 mois après. Car, soutient l'opposition, on peut avoir la loi sur la répartition des sièges en déant une semaine au lieu de 54 jours soulevés par la CENI, étant donné que la révision de la Constitution s'est réalisée en déant 3 jours. Mais pour la majorité présidentielle, il ne faut pas politiser une question qui est d'abord technique et qu'il faut s'en tenir à ce que dit la CENI, car elle est la seule institution qui en a constitutionnellement compétence. Pour le co-modérateur, il y a lieu de rapprocher les angles en ramenant les approches des uns et des autres à un compromis acceptable par tous. Les discussions vont se poursuivre à travers le groupe de travail afin d'obtenir l'accord politique.
Merci Livin Mwinga. Romain Kambala, journaliste à Kasaï Horizon Radio TV, mettant de Chikapa, comme je l'ai dit, il nous reste très peu de temps, j'aimerais avoir des réponses très brèves. Comment vous analysez cette proposition de la CENI?
C'est une proposition qui ne passe pas pour moi. La CENI cherche toujours à tirer les choses en longueur pour satisfaire au gouvernant. Je me dis une chose, il y a eu révision du fichier électoral en 2005 pour les élections de 2006. Il y a eu révision du fichier électoral en 2011 pour les élections de 2011. Alors posons-nous la question de savoir, ça a pris combien de mois? Et si aujourd'hui on en est à 504 jours et M. Corneille Nanga nous balance pour toute la suite du processus. Et ces deux tranches d'échéance passées, la révision du fichier électoral a pris combien de temps? Il y a des choses qui peuvent être faites en une semaine. Mais vous allez vous retrouver sur le calendrier et la préparation, 50 jours, 60 jours. Tout ça, c'est pour tirer les choses en longueur inutilement. Bon, je sais que nous avons déjà glissé. Ce qu'il faut faire, c'est de se mettre autour de la table, voir un calendrier qui répond aux besoins des uns et des autres. Mine de rien, il ne faut pas tirer les choses en longueur telles qu'ils sont en train de le faire, sinon ça relève de leurs compétences, comme on dit que la CENI est souveraine, elle est libre, elle est libre souveraine. Donc elle est capable de nous tirer sur 1000 jours pour dire qu'elle est libre. Non, je ne pense pas. On se met autour d'une table pour trouver un calendrier consensuel qui puisse répondre dans un temps record aux besoins des Congolais.
Jean-Claude Bimola, éditeur du Climat Tempéré, paraissant à Kinshasa, vous avez suivi la majorité présidentielle qui pense qu'il ne faut pas politiser une question qui est plutôt technique.
Oui, mais bon, chaque jour et chaque geste que la CENI pose me donne l'impression d'être que cette institution est un cheval de Troie du glissement. Parce que c'est quoi? Nous ne sommes plus dans une situation normale. Le Congo est dans une situation de crise. Il faut des solutions de crise. La CENI continue
la
à travailler.
La solution de la CENI n'est pas une solution de crise.
La CENI continue à travailler comme si on était dans une situation normale, qui pose ses gestes en temps voulu, sans répondre à qui que ce soit, en respectant ses procédures. Je pense vraiment que le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de dirigeants qui viennent se plaindre du pouvoir, constater qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de temps, que non. On a besoin de génies maintenant. On a besoin de génies. Et ça existe. Ça existe dans l'histoire des peuples. Les génies ont existé, qui sont venus poser, qui sont venus apporter des solutions à situation de crise et de façon efficace et efficiente. Nous avons besoin de ces gens, de ces personnes-là.
Qui soient acceptés par tous.
Oui, qui soient acceptés par tous, mais qui sont pragmatiques, qui ont le génie, qui savent travailler en situation d'urgence. Tu vois, par exemple, regardez mon frère, la CENI commence l'opération d'enrôlement. Mais il le fait en pièces détachées, alors que nous avons besoin d'un enrôlement massif. La CENI va prendre 1 ou 2 mois, aller à la Mongala, il va prendre 3 ou 4 mois, il va... Non, non! C'est une situation incompréhensible. Nous avons besoin d'un enrôlement massif qui comprime le temps. Mais la campagne de vaccination, il fait des porte-à-porte pour gagner du temps. En 4-5 jours, on a vacciné 8 millions de quinois à la fièvre.
Est-ce que ce sont les mêmes réalités?
Non, c'est pour vous dire que lorsqu'on fait une opération massive, on mobilise les moyens nécessaires, le personnel nécessaire, on peut arriver à des résultats important en moins de temps. Ce que la CENI ne fait pas. Il séquence l'enrôlement. 1 mois à la Mongala, on quitte la Mongala. 2 mois en Équateur, on quitte l'Équateur.
Merci.
Non, mais on va finir quand? En 2020.
Merci. Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques au groupe L'Avenir. L'opposition a démontré, quant à elle, qu'il est techniquement possible, dans le contexte politique actuel, de comprimer ces dates en convoquant le corps électoral le 30 septembre 2017 et tenir les élections 6 mois après.
Mais ça, c'est une violation flagrante de l'indépendance de la CENI. Il n'y a que dans ces pays, cher Alain, où du jour au lendemain, tout le monde devient expert constitutionnaliste, tout le monde devient technicien électoral. Non, laissons des matières électorales à ceux qui en sont experts.
Et donc 2018, c'est le moindre mal pour vous.
Qu'on ne compare pas les choses. Je vois par exemple, les gens disent, au Gabon on a pris un peu de temps, mais au Gabon ça peine 650 000 électeurs. C'est à peine les habitants d'une commune de Kinshasa. Vous comprenez? Est-ce qu'on tient compte de la complexité du processus, de la grandeur, la dimension de notre pays? Est-ce qu'on sait qu'à un moment donné, on a des infrastructures routières qui ne nous permettent pas? Mais le Congo, c'est près de 14 millions d'habitants. Les enrôler? Non, mon ami, c'est pas par coup de baguette magique.
Et donc 2018, c'est le moment
opportun. On a organisé les élections dans la précipitation en 2011 et on a vu les types de résultats que ça nous a produits. Je crois que le vin est tiré, il faut le boire, laissons le temps. Autant organiser des bonnes élections au soir desquelles le perdant appellera le gagnant pour le féliciter.
En guise de conclusion, parce que l'émission se termine déjà.
J'en appelle à la retenue. À la retenue aussi bien du côté de la majorité, de l'opposition, qu'à la société civile. Évitons des discours incendiaires. Évitons de chercher à brûler la case. On n'a que ce pays. On n'a que celui-là. On n'a pas un autre.
Merci.
Si on les brûle, si on met tout en feu, et puis après le 20 décembre, on devra gouverner sur des personnes.
Merci.
On devra gouverner sur des institutions. On aura besoin des banques. On aura besoin des boutiques qu'on détruit malheureusement aujourd'hui.
Merci. Romain Kambala, un mot en guise de conclusion.
Oui, en termes de conclusion, nous souhaitons que les acteurs politiques de la République, que ce soit de gauche, que ce soit de droite, se dépassent de leurs divergences et se mettent autour d'une même table pour une solution sanitaire pour la vie de la République démocratique du Congo.
Merci Jean-Claude Huimoy, la conclusion.
L'analyse de la situation politique a montré qu'on va certainement égratigner certaines dispositions de la Constitution. Mais si on veut le faire, on ne peut pas le faire dans l'exclusion. Il faut écouter tout le monde. Voilà.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La Tribune de la Presse est terminée pour ce soir. Réalisation Guy Maté, à la technique Héritier Sidiakala, supervision Julien Nyamouini, présentation et coordination Alain Hirung Mouchige. Merci de votre attention et bon week-end à tous.